France Inter. Franck Tillier, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
J'écris pour procurer le frisson aux lecteurs et pour leur parler du monde d'aujourd'hui.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
L'obscurité, ma vieille amie.
Une qualité indispensable pour écrire un bon polar.
Avoir le sens du suspense.
Un défaut indispensable pour écrire des polars.
Aimer le noir et avoir des obsessions.
Romancier, auteur ou écrivain ?
Plutôt romancier, je trouve que c'est plus précis que les deux autres, en ce qui me concerne.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassel.
Bienvenue dans l'émission Etc. Aujourd'hui, une spéciale polar à l'occasion du festival Quai du Polar qui se tiendra le week-end prochain et comme chaque année à Lyon. On reçoit deux auteurs qui seront sur place en dédicace et un autre qui n'y sera pas mais qu'on adore. Franck Tillier, l'une des superstars du festival, a déjà séduit des millions de lecteurs depuis son premier livre paru il y a 20 ans. Dans Norferville, son 24e roman glaçant et glacial, on suit deux enquêteurs dans une ville isolée du Grand Nord québécois où le corps sauvagement mutilé d'une jeune Française a été découvert. Le roman explore les traumatismes enfouis et les ravages du silence, notamment autour des communautés autochtones. Et cet univers froid, oppressant, on le retrouve aussi sous la plume d'Anouk Schoeterberg. In Extremis, c'est son 4e roman, il vient de sortir, et le point de départ est hallucinant. La tête tranchée d'une femme, maquillée, coiffée, parée d'une couronne d'Edelweiss, remonte une rivière à Chambéry, dans une mise en scène macabre. Très vite, l'enquête révèle qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un tueur en série qui choisit des victimes de plus en plus flamboyantes comme des trophées toujours plus précieux. Enfin, nous ferons la connaissance d'un auteur de premier roman, premier polar. Il s'appelle Makodou Atolodé. Il est né à Dakar en 1991 et son livre « Étincelle rebelle » est une plongée dans le Sénégal d'aujourd'hui. La corruption dans la police et le dilemme d'un jeune inspecteur entre intégrité et ambition. Son roman engagé et vif est à la fois un thriller et une satire sociale. Vous l'aurez compris, il sera donc question de polar au sens large, thriller, roman noir, roman policier. Et nous retrouverons nos libraires pour leurs questions et conseils de lecture en fin d'émission. Vous écoutez, etc. C'est parti.
Etc.
Bonjour à tous les trois, Anouk Schoeterberg, Franck Tillier et Makodou Atolodé.
Bonjour.
Alors tout d'abord, une petite mise au point de définition. Quelle différence y a-t-il entre roman policier, roman noir et thriller, Anouk Schoeterberg ?
Le roman policier, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a une enquête avec des flics. Le roman noir, c'est plutôt une ambiance, j'allais dire, et le thriller, c'est un peu entre les deux. La frontière est assez faible la ligne est assez ténue entre ces trois genres.
Franck Tillier, vous êtes d'accord avec les définitions de votre collègue ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est toujours un peu trouble de définir, parce que parfois on a des thrillers dans lesquels il y a des policiers, ou des thrillers dans lesquels il n'y a pas d'enquête. Je dirais que oui, le roman policier, c'est vraiment l'intrigue policière, avec des policiers qui vont mener une enquête et qui vont essayer de comprendre, de retrouver un criminel. Le thriller, on se met parfois plutôt du côté de la victime, c'est-à-dire une personne qui a une vie complètement normale et qui d'un seul coup va basculer
dans l'horreur.
Souvent on retrouvait ça dans les films de Hitchcock, oui, par exemple, souvent des gens du quotidien qui se retrouvent dans des histoires abracadabrantes. Et puis le roman noir va plutôt s'intéresser à la société, au dysfonctionnement de la société. Par exemple, Germinal de Zola était un roman noir. Donc voilà un peu les différences, mais c'est encore beaucoup plus vaste que ça. Il y a le roman historique, enquête historique, il y a le roman de pur frisson. Donc il y a vraiment un livre pour chaque lecteur.
Et vos romans, ils appartiennent à quelle catégorie, Makodou Atolodé ? Vous le classez où, le vôtre ?
Je ne me suis pas posé la question en écrivant. Et c'est à la fin après avoir écrit, que je me suis rendu compte qu'on pouvait le cataloguer roman noir.
Plutôt donc, roman noir.
Même si, effectivement, on suit un policier, et donc il y a une enquête et tout, roman policier, mais il y a vraiment le côté critique sociale qui est assez prononcé.
Mais la satire sociale qui
donc,
est... Après, est-ce qu'il faut classer, de toute façon, les romans Franck Tillier ?
Non, c'est ce contre quoi on se bat, c'est d'essayer de sortir des cases. Mais effectivement, un roman ne rentre pas forcément dans une case. Le roman de Makodou, pour l'avoir lu, justement, il y a un peu des trois. On retrouve d'une enquête policière, parce qu'on est du point de vue d'un policier, il y a une journaliste, on est dans l'investigation. Il y a du suspense aussi, parce que voilà, il se passe tout un tas d'événements, et surtout, il y a effectivement une grosse partie sociale. Quand vous lisez le livre, vous comprenez ce qu'est aujourd'hui, quels sont les problèmes du Sénégal, et comme jamais, en fait. Donc ça, c'est aussi l'une des forces, je trouve, de ce genre-là, c'est de décrire une réalité sociale.
Pour la première fois en 2024, il s'est vendu plus de polars français que de polars étrangers en France. Comment vous expliquez, Franck Tillier, le succès des polars français, vous qui en êtes l'un des plus gros vendeurs?
Mais nous, on est super heureux, les Français. Moi, j'ai vraiment vu les vagues, hein, ça fait plus de 20 ans que j'écris. Je me souviens, quand j'ai commencé, mais un peu avant que je commence, c'était vraiment les Américains. Les gens ne lisaient que ça, les Anglo-Saxons même, de manière plus générale. Et puis après est venue la vague nordique. Alors ça, je l'ai vécu plein fouet.
En mode des polars islandais.
Oui, j'étais en dédicace et les gens se fichaient de mes livres et passaient derrière pour prendre les livres à la fameuse couverture noire avec le petit cercle au milieu. Et oui, depuis... quelques années, vraiment, on sent cette vague française. J'en suis très heureux, parce que tout simplement, il y a d'excellents auteurs qui sont chacun dans leurs univers. C'est-à-dire qu'il y a une proposition très large dans le polar français, avec des plumes sublimes. Alors, vous pouvez être dans le suspense pur, dans le crime en série, comme l'a fait Anouk dans son dernier, dans les romans qui se passent à la campagne, le nature writing. Enfin, on a un peu de tout ça dans les romans, des romans très sociaux aussi.
C'est vrai qu'il y a une richesse. Anouk Schoenberg, vous, votre roman, vous le classeriez où? Parce que c'est vrai que vous avez une plume qui est souvent, qui est quand même assez poétique.
Alors, je suis entre le scénar, parfois, parce qu'on dit que j'ai une écriture très cinématographique. Moi, je pense que je suis plus dans le thriller. Moi, ce que j'aime, c'est en fait que mon lecteur rentre dans une expérience sensorielle. J'ai toujours des playlists, en fait, en début de mes livres.
Oui, il y a un QR code au début de...
Exactement. Et en fait, j'aime plonger mon lecteur dans une expérience. Il va rentrer dans l'histoire et en fait, il va me lire comme s'il pouvait regarder une série policière ou un thriller sur une plateforme quelconque. Et c'est en ça que peut-être j'ai une patte qui se différencie d'autres auteurs. Et c'est pourquoi voilà, j'ai aujourd'hui un certain nombre de lecteurs qui me suivent et qui me sont fidèles, que je remercie d'ailleurs.
Alors vous avez un point commun, Franck Tillier et Makodou Atolodé. Vous avez tous les deux une formation d'ingénieur. Ingénieur en informatique. Est-ce qu'il existe un parallèle, selon vous, entre le métier d'ingénieur et l'écriture de polar, Makodou?
L'exigence de rigueur dans une démonstration en mathématiques est quelque part corrélée à l'exigence de cohérence dans l'élaboration d'une intrigue policière.
Franck Tillier, vous êtes d'accord?
Oui, oui, mais c'est rigolo parce que je l'ai vraiment senti. Alors, je ne savais pas du tout que vous aviez une formation scientifique, mais en lisant, en voyant justement la manière dont les fils se refermaient, alors parfois il y avait un petit détail, page 10, et on retrouve la résolution, page 300, et on se dit, ah là, il y a un petit esprit scientifique. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que moi, tous les jours, je me dis que ma formation scientifique m'a servi parce qu'on écrit des histoires qui doivent être structurées, qui demandent beaucoup, pas mal de recherches, qui demandent d'essayer d'imaginer ce que le lecteur va penser pour anticiper. Vous savez, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. On crée des fausses pistes, donc on dit est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller.
Ça,
donc,
c'est jouissif.
Oui, c'est jouissif. Donc en permanence, il faut avoir cette image là. Et donc moi, mes études vraiment me servent quotidiennement pour écrire ces histoires.
Alors Anouk Schoenberg, Franck Tillier et Makodou Atolodé, on se retrouve dans quelques minutes pour entrer plus en détail dans vos romans. Mais avant ça, on écoute Dali, Tout va bien.
Elle me remporte. Le matin élégant. J'ai beaucoup d'efforts. Avec elle, je mets les gants. Avec elle, je mets les gants. Je sais que je suis chelou de temps en temps. Je lui dis des mots d'amour dans l'oreille de temps en temps. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sous la semelle. Les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sous la semelle. J'sais pas pourquoi. J'sais pas
baiser, juste le timbre de ta voix ou la courbure de tes fesses. J'aime bien quand t'es là, que tu montres comment faire et chuchote que ça va avec ses yeux brillants pour le ciel.
Toi, rien, t'es belle, tu le portes bien. Je me dis que tu ne portes rien, tu peux voler si tu te penches bien. À toi, bien.
J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle.
Vous écoutez, etc. Et nous sommes toujours en compagnie d'Anouk Schoeterberg, Franck Tillier et Makodou Atolodé. Anouk Schoeterberg, vous avez placé le décor de votre roman In Extremis au cœur d'une station de ski. Et la cible de votre tueur n'est autre que Marie, une sportive de haut niveau qui pratique des sports extrêmes. Pourquoi ce choix de la montagne ?
Dans mes livres, je parle toujours de ce que j'ai vécu. Et donc j'ai vécu dans cette petite station de Valfréjus, on était en hors saison. Il faut savoir que cette station, elle est surnommée le Nid d'Aigle, donc tout un programme pour vous dire. J'y étais au mois de janvier, il y a 2 ans, et j'ai pratiqué, bon je suis skieuse depuis longtemps, j'ai pratiqué aussi un peu le parapente. Donc le speed riding était la synergie entre ces deux sports. Donc je suis restée dans cette communauté, cette petite communauté. J'ai vécu avec ces fans d'adrénaline qui étaient là aussi comme moi en stage, et puis avec des perchistes, avec tous les saisonniers dans cette toute petite station. Et l'ambiance, honnêtement, c'était très sympathique. Et comme j'aime bien soulever évidemment le voile et passer derrière le rideau du théâtre, évidemment, cela m'a inspirée. Et puis en plus de ça, la montagne est un véritable personnage dans mon livre, puisque la roche brutale, ce décor brutal servait mon récit.
Alors en studio avec nous, Benoît Autier, de la librairie des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Bonjour Benoît. Vous n'êtes pas forcément un amateur de thriller, mais vous avez quand même été séduit par le roman d'Anouk Schoeterberg.
J'étais plutôt interrogatif. J'aime bien lire des thrillers une fois de temps en temps, d'abord pour me tenir à la page. J'avais déjà entendu parler de vous avant de lire le texte. Je me demandais quand est-ce que je passerais le cap. Et avec cette montagne, je m'étais dit, est-ce qu'on est dans le slogan « La montagne, ça vous gagne ?» avec tout le côté décorum très lisse de la station de ski, l'eau cristalline, le bon air. Alors on retrouve effectivement le côté minéral. Mais comme on est dans un thriller, on a aussi les tueurs en série et les victimes. Naturellement, si je ne suis pas lecteur de thriller, c'est parce que, on en parlait tout à l'heure, ou vous en parliez tout à l'heure, je suis plus attiré par les romans noirs. Mes choix vont soit vers des anglo-saxons, que ce soit James Salis ou Richard Kraviec, ou plus historiquement Jean-Patrick Manchette en France. Plus Rivage Noir que Fleuve Noir, si je dois résumer. Pardon Franck, mais...
Pourquoi Benoît, je peux vous poser la question ?
Parce que le caractère mathématique qui était évoqué m'intéresse grandement. Je trouve qu'il faut que ce soit très pertinent et qu'on n'a pas le droit de jouer avec le lecteur juste pour faire rentrer les choses dans les cases. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est plus l'atmosphère. Et je pense que dans le roman noir, certaines fois, les vraisemblances des enquêtes sont moins fournies que les analyses sociologiques. Effectivement, le premier constat que j'ai eu à vous lire, Anouk, c'est que j'ai dévoré votre livre en 2 jours. Comme tout mon thriller, ce qui veut dire que, un, je ne m'y suis pas ennuyé, et que, deux, on est à la chasse du tueur en série. On se doit, en tant que lecteur, d'aller chercher inexorablement qui. Vous menez d'ailleurs votre récit de façon haletante. Vous n'abusez pas de rebondissements artificiels, ce que je trouve toujours heureux. Tout paraît assez crédible. La psychologie du tueur est richement dotée et décrite, et vous décidez la plupart du temps d'aller à l'essentiel pour que la nervosité du texte reste. comme je suis lecteur plutôt de noir, ce que j'aurais aimé, et vous venez de nous l'apprendre, c'est que vous alliez plus loin dans la description des stations de ski hors saison, de la psychologie des groupes de sports extrêmes, qui sont évoqués, mais qui sont plus là en toile de fond qu'en raison de fond. Et c'est ce qui, parfois, moi, me manquait en tant que lecteur. Après, comme je vous l'ai dit, l'intérêt, c'est que je sais à qui m'adresser quand j'arrive devant la table pour conseiller, et je sais que votre texte a de grandes chances d'être choisi par mes lecteurs.
Ah, j'aimerais qu'on laisse quand même Anouk répondre sur ce point avant que vous posiez votre question.
Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude d'aller à l'essentiel. Je ne fais pas des énormes pavés. Moi, encore une fois, ce que je veux, c'est que mon lecteur il soit tout de suite dans la scène. Donc, je ne passe pas des centaines de pages dans des descriptions. Je veux qu'il reste dans l'intrigue et qu'il reste ferré. C'est ça qui m'intéresse.
Et moi, c'est ce qui m'a plu, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, il y a autant de lecteurs.
Donc, en fait, je vais à l'essentiel. Ça a un côté brutal. On dit que j'ai une écriture un peu au scalpel. C'est vrai. Et en même temps, je ne perds pas le lecteur sur mon intrigue. Je veux qu'il aille aussi vite que moi dans son activité cérébrale, dans le sens où voilà, il veut découvrir, il veut avoir le fin mot de cette histoire. Et puis, tous les lecteurs se prennent aussi un peu pour des flics ou pour les enquêteurs. Ils veulent aussi, ils sont face à une énigme, une intrigue, qui veulent essayer de dénouer eux-mêmes. Donc voilà, je veux les laisser dans cette espèce de chape de plomb, avec cette angoisse, ce côté glacial et glaçant de l'histoire.
Mais quand on lit un thriller, si on le trouve, on peut dire que le texte est réussi. Après, c'est ce que je vous disais, moi c'est pas nécessairement mon goût naturel, mais j'ai...
Vous l'avez lu en deux jours. Donc
à aucun moment j'ai trouvé que c'était très palpable, cette nervosité, cette violence, dans laquelle, et c'est ma question, je trouve, peut-être non pas vous vous complaisiez, mais j'aimerais savoir si vous prenez plaisir à être dans les détails sordides, ou si vous jugez ça nécessaire pour le thriller.
Non, alors je suis pas outrancière dans les détails, je n'aime pas... avoir des détails d'hémoglobine sanguinolent. Mes descriptions servent mon intrigue. Ce psychopathe, effectivement, dans le livre In Extremis, je fais rentrer le lecteur dans l'esprit du psychopathe, comment il fonctionne. Sans excuser ses actes, il y a toujours des ramifications, quelles que soient familiales. Voilà, la psychopathie, c'est un germe qui a un terreau fertile à un moment donné, et ça m'intéressait justement de mettre ça. C'est presque le personnage principal de mon livre, puisque le chapitre commence sur ces confessions de ce psychopathe. Mais voilà, toujours en essayant d'avoir un juste milieu entre des moments. C'est un peu comme une symphonie, c'est un peu comme une mélodie. À un moment donné, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que le lecteur, il dévore les pages et qu'il soit vraiment dans le frisson, et puis à un moment donné, des moments plus de calme. C'est un savant dosage entre les deux.
Merci Benoît. Alors Anouk Schutterberg, vous parliez notamment de votre premier chapitre, où on est vraiment dans la tête de votre psychopathe. J'aimerais que vous nous en lisiez un extrait, qu'on entende votre langue.
« Je t'ai déposé délicatement dans l'onde furieuse à partir de la rive en amont dans la montagne. Il faisait froid. Tu as dérivé lentement. Mes yeux t'ont suivi. Ton corps évoquait une embarcation légère. Dès les premières minutes, tu es parti en douceur, puis les flots rageurs venus des alpages t'ont happé. Tu fus alors malmené violemment de droite et de gauche. Ému, le regard embué, je t'ai regardé t'éloigner de moi, de mon cœur. Je suis remonté en voiture pour suivre ta route, ton dernier voyage. »
Alors, lu comme ça, on a l'impression d'un début d'histoire d'amour, Anouk Schutterberg. En réalité, c'est effectivement le tueur qui s'exprime. Vous vous mettez d'emblée à sa place. Pourquoi ?
Alors, en fait, encore une fois, je voulais vraiment que mon lecteur soit presque un peu déstabilisé, de rentrer dans un esprit psychopathe, dissociatif par rapport à la réalité. Enfin,
parce que là, c'est une tête qui flotte. Hein.
C'est une tête. En fait, le début, c'est une mariée qui dévale le torrent. En fait, j'aime toujours les ambivalences. C'est-à-dire que ce tueur, il est cruel, il est sadique, il est machiavélique. Mais quelque part, il aime que les dépouilles soient retrouvées de manière la plus magnifique possible. C'est-à-dire qu'il les met vraiment en scène, et il a un verbe, il a une façon de s'exprimer qui en est presque poétique. Et donc je voulais justement, j'aime bien les contrastes toujours, que ce soit dans mes musiques, que ce soit voilà sur des scènes particulières, jouer voilà, je pense à Tarantino souvent ou Guerrici, parce que j'ai toujours des références cinématographiques en tête, où parfois la bande son est totalement en décalage avec ce que l'on voit, et c'est ça que j'aime en fait.
Et c'est quoi la logique de votre meurtrier? Qu'est-ce qu'il a en tête?
Alors, je peux pas trop révéler, parce que évidemment, s'il les met en scène, c'est qu'il a, il a un côté très théâtral. Est-ce qu'il a été contrarié dans son enfance? On ne sait pas. Je peux pas trop en dire. Mais
pour préciser ma question, en fait, on a le sentiment que la quête d'adrénaline de sa nouvelle cible Marie, à travers les sports extrêmes, rejoint celle du tueur.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une extrémiste, on est dans les deux extrêmes. On est dans l'extrême psychopathie de ce tueur qui, finalement, quelque part, ne va-t-il pas rejoindre, cette psychopathie ne va-t-elle pas rejoindre les extrêmes de tous ces sportifs, justement, qui cherchent la confrontation, presque la mort, hein. Et ce tueur, pourquoi il s'intéresse, ses proies sont des sportives aguerries? Bah parce que, quelque part, lui aussi cherche le challenge et le défi, parce qu'elle pourrait très bien se retourner contre lui. Donc, en fait, il y a un parallèle entre ces deux extrêmes, entre ces sportifs de l'extrême et ce psychopathe qui, effectivement, recherche lui aussi de l'adrénaline.
Makodou, à Toulodé, qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne me suis pas forcément penché sur le cas spécifique du psychopathe. Ceci dit, j'ai un personnage que je peux décrire comme un narcissique. Et bon, ça rejoint un peu cette histoire de triade noire, narcissique, machiavélique, psychopathe. Il s'oppose à un policier qui est lui aussi dans une certaine extrémité dans l'intégrité. C'est quelqu'un qui quand même va aller jusqu'à refuser une promotion qu'on lui accorde parce que, justement, cette promotion est au prix de libérer un trafiquant qu'il a arrêté.
Donc vous jouez, vous aussi, avec les antagonismes.
Donc il y a un certain... Oui, tout à fait.
Et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans vos romans à tous les trois, puisque vous ne vous contentez pas de raconter des meurtres. Vous explorez aussi ce que le crime révèle d'un monde plus vaste, que ce soit le passé colonial chez Franck Tillier, les dérives de l'esthétique et de la performance chez Anouk Schoenberg, ou les compromissions politiques chez vous, à Toulodé. Makodou, est-ce que, pour vous, écrire un polar, c'est forcément intéressant le monde qui vous entoure?
J'envisage difficilement d'écrire sans, en tout cas en ce qui concerne la réalité du Sénégal, sans prêter à réfléchir, sans que cela puisse, enfin, contribuer en tout cas à décrisper le débat sur certaines questions qui sont jugées tabous, notamment le thème de l'accasement. C'est un sujet extrêmement tabou au Sénégal. Et tellement tabou qu'il y a des livres qui sont censurés lorsqu'ils en parlent. Donc,
le vôtre, il va sortir au Sénégal?
Il était censé sortir, mais pour l'instant, c'est retardé, on va dire. Parce qu'il y a eu un souci avec un ancien livre d'une historienne qui a été censuré, et donc le libraire n'a pas voulu prendre de risque.
Alors j'aimerais qu'on reprenne justement votre roman depuis le début, puisque vous racontez l'histoire d'un inspecteur qui, après des mois d'infiltration, arrête un puissant trafiquant de drogue à Dakar. Mais face aux pressions politiques pour le faire libérer, il refuse de céder et voit sa carrière et sa vie privée vaciller. Comment est née cette idée?
D'un intérêt pour la Casamance, déjà. Parce que j'y suis allé, je l'ai découvert assez récemment. J'ai découvert aussi que j'avais des racines là-bas, du côté de ma grand-mère paternelle. Et je suis tombé amoureux de cette région. Il faut savoir que le Sénégal, c'est un pays sahélien. Et la partie sud, c'est la partie qui est vraiment verte. On a vraiment une forêt dense. Et donc quand on survole en avion, on voit tout de suite la différence. Et puis je me suis renseigné beaucoup sur la région, notamment parce qu'elle avait... c'est une région qui est en tout cas perçue comme restée très ancrée dans ses traditions ancestrales, spirituelles. En lisant sur la région, j'ai découvert tout un pan de l'histoire récente, notamment avec la guerre, avec les rebelles, tout ça, qui n'est pas enseigné à l'école, évidemment.
Que vous connaissiez quand même
de manière très superficielle. Pour moi, à l'époque, c'était quoi? Il y avait les rebelles, c'était les méchants. De côté, il y avait l'État. Et puis voilà, ils ont réussi à en venir à bout, plus ou moins.
Mais cette histoire qui vous a passionné, pourquoi avoir voulu en faire un polar et pas un roman historique? Pourquoi ce genre?
Je n'ai même pas la réponse à cette question, parce que le personnage du policier m'est venu très vite quand j'ai eu envie d'écrire sur la Casamance. Mais c'est vrai qu'au début, je ne voulais pas parler de trafic de cocaïne, forcément. Je voulais plutôt parler de trafic de bois, avec la thématique des bois sacrés, pour vraiment être en plein dans la Casamance traditionnelle. Et finalement, en me documentant, je me suis rendu compte des enjeux que la rébellion posait encore aujourd'hui, dans la mesure où les rebelles n'ont toujours pas déposé les armes, et que l'omerta qui dure depuis maintenant 42 ans n'a rien réglé, et que c'est une bombe à retardement. Donc je m'étais dit, il était quand même souhaitable que ce soit les citoyens sénégalais qui s'emparent de la question, pour une fois, et qu'on ne la laisse pas aux politiciens.
Alors j'aimerais qu'on retrouve à présent l'un de nos libraires, Makodou Atolodé, qui vous a lu avec grand plaisir. Alexandre Dimitrievitch, bonjour.
Bonjour.
Alors vous travaillez à la librairie Delphica à Genève et vous avez été captivé par ce premier roman.
En effet, votre roman est un vrai bon polar sociopolitique, un peu mystique, que j'ai dévoré le temps d'un week-end. Et ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est cette capacité à dépasser l'idée simple que je me faisais du roman policier, tout en usant de ses meilleurs codes pour me plonger dans une intrigue passionnante où chacun se débat avec ses propres convictions dans un monde gangréné par des intérêts contradictoires et où l'honneur, vous l'avez dit, est malheureusement plus souvent puni que récompensé. Car oui, votre récit parvient à mettre en lumière, avec quelques voltiges scénaristiques qui n'ont pas été pour me déplaire, la corruption au sommet de l'État, l'exploitation économique des compagnies étrangères et le rôle trouble que tiennent les multinationales du grand banditisme. J'ai été particulièrement touché par la manière dont vous humanisez vos personnages. N'est-ce pas là d'ailleurs le génie d'un bon roman, notamment ceux que l'on pourrait facilement réduire à des figures antagonistes dans un récit qui serait porté au cinéma ou rapporté par la presse. Ici, chasseurs, rebelles, militaires et policiers, journalistes aussi, tous nous partagent leur raison d'agir car chacun tente de survivre face aux contraintes du réel. Il n'y a pas de manichéisme. Et c'est aussi un livre qui, au-delà de son intrigue, que je n'aimerais pas ici trop dévoiler, questionne les limites du bien et du mal.
Et Alexandre, vous avez aussi été touché par le style, l'écriture de Makodou Atolodé.
Ouais, effectivement, j'ai trouvé le style fluide et j'ai particulièrement apprécié la qualité de vos dialogues, souvent drôles, ciselés et pleins d'esprit. Ils donnent du rythme à la lecture et ils ont rendu le récit captivant à poursuivre. Et ce qui m'a également frappé, c'est votre capacité à nous faire voyager au Sénégal, à nous immerger dans ses paysages, mais aussi dans ses croyances. Car cette intrigue qui est tout de même bien ancrée dans la réalité, elle intègre avec brio aussi des éléments du surnaturel, ajoutant cette dimension mystique dont je parlais juste avant. Et cette touche d'étrangeté, elle m'a jamais dérangé, au contraire. Je trouve qu'elle est venue renforcer votre propos, rendant le texte unique et suffisamment fou pour que d'une pirouette on continue à s'y accrocher, comme si le réel lui-même ne se suffisait plus, devenant alors trop absurde pour que l'on puisse se passer d'une dose d'imaginaire. J'ai adoré scruter chacune des tournures de vos phrases dans l'attente du prochain coup de théâtre.
Merci beaucoup Alexandre Makodou Atolodé. Je voulais savoir qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'élaboration de ce premier roman.
Je pense que c'est pour moi, c'est la réécriture. Enfin, la réécriture, les corrections après avoir fait...
Les corrections d'éditeur.
Non, pas les corrections de l'éditeur, mais les premières corrections que j'ai dû faire à moi.
Ah, le fait avoir... de repasser sur le texte.
Parce que c'est toujours... Parce que j'ai tendance à... Une fois que je suis arrivé au bout, je me dis, voilà. Mais après, quand je dois revenir, c'est toujours un peu laborieux. Donc je dirais que c'est plutôt ça. Mais je suis satisfait quand même d'avoir fait ça, parce que autrement, ça n'aurait jamais pu...
C'est douloureux de retravailler.
Oui.
Je dirais ça, ouais. Merci beaucoup, Makodou Atolodé. Vous restez avec nous. Dans un instant, on entrera dans vos ateliers d'écriture à tous les trois, avant de plonger dans le dernier roman de Franck Tillier.
Je suis concierge rue de Bussy. Dans mon immeuble, y a que des penseurs. C'est moi que je suis leur égérie. Je fume la pipe et je mange des fleurs. Je suis décadente. Le matin, quand je fais mes escaliers avec mes pauvres jambes avarices, je pense à Sisyphe et son rocher qui retombait dans un précipice. Je suis décadente. Quand Ernest, il veut me faire ma fête, je lui dis à quoi bon, très amère. Il me répond pourquoi pas, c'est bête, j'ai épousé un gars primaire. Je suis décadente. Quelquefois, bois quand je me sens trop lasse. Sur ma porte, je colle un papier. Je mets la concierge et dans l'angoisse qu'il se débrouille pour le courrier. Je suis décadente, mais le suicide quotidien, ce n'est vraiment pas une vie. Le désespoir, ça n'est pas sain. On s'en lasse et s'en l'édit d'être décadente. Sentir qu'on n'est rien ici-bas, cela conduit à tous les vices. Fumer de la marijuana, c'est mauvais pour mes rhumatismes. Je suis décadente. Le désespoir, j'en ai ma dose. Je vais prendre une place à Passy. Là au moins je serai quelque chose. Et puis j'aurai foi en la vie. Je serai méritante. Je vais avoir un rôle et d'être voix. Je me peindrai plus les ongles en noir. Je mangerai un yaourt tous les soirs. Quand je serai psychiatre, avenue Mozart.
Vous écoutez, etc. C'était Brigitte Fontaine, Je suis décadente. Nous sommes toujours en compagnie d'Anouk Schoesterberg, Makodou Atolodé et Franck Tillier. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Alors, j'avais une question un peu naïve pour démarrer, mais je me demandais, quand vous écrivez des scènes de crime, est-ce qu'il vous arrive de vous faire peur, Franck Tillier? Est-ce que ça peut vous empêcher de dormir, d'écrire certaines scènes?
De manière générale, quand j'écris, quand je suis vraiment dans une phase d'écriture, ce qui n'occupe pas tout le temps, je dors assez mal parce qu'en fait, je pense toujours à mon histoire. C'est-à-dire qu'on s'endort avec ces personnages et puis on les laisse à un moment donné, le soir, quand on a fini sa journée, et puis c'est en train de faire quelque chose.
Donc c'est pas la peur, c'est...
Non, c'est une frustration, ouais. Ça peut être un blocage aussi, parce que ça arrive aussi de se retrouver bloqué, même plusieurs jours. Donc il y a des périodes comme ça où parfois je dors, enfin des périodes dans l'écriture où je dors plutôt bien, et d'autres où je dors mal quand justement il faut relier des nœuds, des choses compliquées dans l'histoire. Il y en a quand même beaucoup.
Anouk Schoesterberg, est-ce qu'il faut nécessairement faire un plan pour écrire un polar?
Non, alors moi j'ai toujours quand l'idée germe, j'ai toujours ma première scène. Et puis, je suis comme Franck, j'ai des nuits écourtées puisque l'idée germe.
Vous écrivez la nuit?
Ça m'est arrivé, oui. Alors, pas forcément redescendre pour écrire sur mon ordinateur, mais j'ai mon téléphone, où j'ai, quand me vient une idée, je la note. Mais en tout cas, j'ai toujours ma colonne vertébrale. J'ai pas toujours la fin. Parfois, je me laisse justement embarquer par des petits chemins de traverse auxquels j'avais pas pensé au départ. Et c'est la période, c'est le moment le plus jouissif. C'est au moment où se fait prendre soi-même dans son histoire. Et quand les personnages prennent presque le dessus par rapport à l'idée qu'on s'en faisait au départ. Donc c'est un an de travail, mais c'est même plus que ça parce qu'en fait on est totalement habité par nos personnages, par notre histoire. Si on se réveille la nuit, on va se dire voilà, on va penser à plein de choses. C'est vraiment le cerveau en ébullition pendant plus de 12 mois en tout cas.
Et vous, Makodou Atolodé, vous avez fait un plan?
Oui. Ben, moi j'ai besoin d'avoir pas toutes les étapes.
Ça, c'est le côté mathématique encore.
Oui, on retrouve. Un peu, mais j'ai vraiment besoin d'avoir la fin, de savoir où je vais. Après, la fin n'est peut-être pas forcément définie de manière exacte à 100%.
Donc, vous commencez par la fin, et puis disons vous remontez.
Que je tâtonne au début, je fais pas mal de... C'est vraiment le désordre au début. Il y a pas mal d'idées qui viennent, j'essaie de les assembler. Et puis, j'essaie d'avoir un fil conducteur, différentes étapes, jusqu'à une fin qui me satisfait. Et une fois que j'ai ça, ensuite je refais une première passe où je fais toutes les étapes encore, et là je peux commencer à la rédaction. Ce travail préliminaire, il a pour seul objectif de ne pas me disperser, parce que je sais que quand je commencerai à écrire, il y a de nouvelles idées qui vont venir. Et
il faut aussi être capable de lâcher à certains moments. Vous, Franck Tillier, vous avez un plan très construit ou est-ce que vous vous laissez aller?
Oui, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'essaye de construire au maximum avant de commencer à écrire. Et ça prend la moitié de l'année. Hein. Moi, j'écris un roman par an, ça va prendre 6 mois. C'est-à-dire que 6 mois, ça va se passer beaucoup dans la tête.
C'est frustrant.
Oui, c'est frustrant, mais en même temps, ça... Quand je me mets à écrire, voilà, je sais
après,
que
ça va vite.
Je sais que j'irai au bout. Alors c'est pas que ça va vite, mais je sais que voilà, j'ai ma structure et je sais que normalement ça tient la route. Alors évidemment, quand on écrit, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez prévoir de faire se rencontrer deux personnages quelque part dans l'histoire. Vous les avez créés et au moment où ils se rencontrent, vous prévoyez ça, mais dans l'écriture, évidemment, ils prennent vie. Et quand ils se rencontrent, bah, vous dites ce que j'avais prévu, ça ne marche absolument pas. C'est pas ça qui se passe. Donc vous avez une autre idée qui va vous faire vous éloigner. Mais c'est un peu comme vous savez, le Vendée Globe, vous avez une trajectoire, vous savez où vous devez aller, puis il y a les vents qui vous portent comme ça à droite et à gauche, et vous essayez de revenir. Alors parfois il faut ramer très fort, mais vous essayez toujours de revenir sur votre trajectoire. Vous affrontez des tempêtes, vous allez casser un.
Et vous revenez forcément sur votre trajectoire, vous ne vous laissez pas dévier.
Ça m'est arrivé une fois ou deux où je m'étais planté dans le plan, dans ce que j'avais préparé, ça divergeait tout le temps et j'arrivais pas à revenir, donc j'ai suivi jusqu'au bout. Donc là, je partais vers l'inconnu. Bon, c'est arrivé, mais j'aime bien quand même essayer de revenir parce que je passe beaucoup de temps justement en amont. Je me fais confiance avant. Je me dis, si je me lance à un moment donné, c'est que je vais aller au bout. Après, dans l'écriture, on n'arrête pas de douter et je me ramène toujours à ce que j'avais dit avant. Je me suis dit, bah, si je suis là, c'est que ça marche. Et donc, j'essaye toujours d'aller vers mon objectif.
Alors, Franck Tillier, j'aimerais qu'on entre désormais dans votre roman Norferville. Quel nom déjà ?
Oui.
Il y a un mélange du Grand Nord, de l'enfer.
C'est ça.
Donc Norferville qui commence donc dans le Grand Nord québécois quand une jeune Française de 28 ans est retrouvée morte, son corps atrocement mutilé. Votre enquêteur Teddy Chaffran est criminologue et c'est surtout le père de Morgane, la jeune femme retrouvée morte. Il sera accompagné dans son enquête d'une jeune flic, Léonie Rock, qui va devoir retourner dans cet endroit qui a été... marquant pour elle, j'en dis pas plus. Mais on comprend très vite que l'enquête rejoint des drames intimes. En quoi cette dimension est essentielle ?
C'est vrai que dans Norferville, on a deux personnages qui sont tous les deux des personnages cabossés, fracturés. Ça, c'est ce que j'aime. Teddy, qui apprend que sa fille est retrouvée dans un endroit complètement paumé dans le Grand Nord québécois et qui va aller là-bas pour essayer de comprendre. Et puis, Léonie Rock, qui, elle, est une métisse. Elle a du sang inou. Donc autochtone, elle a du sang inou. Elle a vécu, quand elle était plus jeune, dans cette ville de Norferville. Il s'est passé un drame, effectivement, au tout début du roman. Elle a subi des violences, elle a quitté cette ville. Mais cette ville, c'est un traumatisme pour elle. Elle ne veut plus en entendre
c'est
parler.
C'est une ville maudite pour elle.
Ville maudite. Et évidemment, elle est devenue flic une vingtaine d'années plus tard. Quelques années plus tard. Et 20 ans après, on lui dit, il y a eu un crime à Norferville. On sait que tu es née là-bas, que tu connais cette ville. Tu y retournes. C'est surtout que personne ne veut y aller. Double traumatisme. Enfin, il y a son traumatisme intérieur, qui est celui de ces violences qu'elle a subies. Et il y a ce crime odieux qui se passe dans une ville où, normalement, ce genre de crime n'existe pas.
Et d'un point de vue littéraire, qu'est-ce que ça permet ?
De relier des éléments qui n'ont pas forcément de rapport, contrairement au roman historique qui, lui, toujours s'appuie sur des faits très précis. Le polar, on peut prendre des personnages qui viennent de n'importe quelle origine, de n'importe quel pays, de n'importe quelle époque.
Et puis ça complexifie aussi.
Et oui, oui, justement, c'est la complexité qui va faire qu'on va pouvoir parler des sujets qu'on veut. Moi, ça m'arrive très souvent de vouloir parler de sujets qui n'ont strictement rien à voir. Il n'y a que le polar qui permet de se dire, à travers l'enquête qu'on va créer, de rejoindre ces éléments-là. Et là, c'est là, à ce moment-là, où effectivement, il faut se creuser un peu la tête pour que tout soit cohérent. Mais je me suis dit, moi, cette victime qu'on... Enfin, c'est un roman qui se passe dans le Grand Nord québécois, mais je sais que mes lecteurs sont français.
Vous vouliez qu'il y ait un lien avec la France, quand même.
Voilà, il faut qu'il y ait un lien avec la France. Mais je voulais parler des autochtones, du peuple autochtone. Et donc, je me suis dit, mais tout ne peut pas se passer... Excusez-moi, avec des Québécois. Donc je me suis dit, il faut qu'il y ait un Français qui parte là-bas. D'où l'idée de la victime, qui serait la fille de ce Français. Et ce qui était intéressant à travers ces personnages, c'est que lui, en fait, Teddy, il n'y connaît rien au Québec, il ne connaît rien aux Autochtones, il ne connaît rien au Grand Nord québécois. Et donc, en fait, quand il arrive là-bas, quelque part, le lecteur, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas, et à travers ses yeux, on va découvrir...
C'est la position de l'étranger.
Voilà, à travers les questions qu'il va poser, on va pouvoir comprendre ce qu'est cette histoire du Grand Nord québécois et du drame que vivent les Autochtones là-bas.
Et d'ailleurs, est-ce que c'est pour ça qu'il y a souvent des duos dans la littérature de polar ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de binômes.
Oui, oui. Alors, il ne faut pas oublier, on parlait tout à l'heure... Le mot qui se rapproche le plus à ce que je représente, c'est le romancier. Donc, on écrit des romans. Dans roman, il y a romance. Enfin, je veux dire, on écrit des histoires terrifiantes qui sont quand même ça parle de crimes. Mais il ne faut pas oublier les sentiments dans les livres. Il ne faut pas oublier les histoires, des personnages.
Les duos d'enquêteurs permettent ça.
Oui. Alors, homme-femme, là, voilà. enfin, on devine un peu que ces deux-là vont se rejoindre, parce que...
ne dites pas tout.
Assez rapidement, mais moi j'aime bien les histoires en parallèle, parce que justement ça permet d'avoir des personnages très différents, et puis de voir ce qui se passe quand on les met ensemble, et d'avoir effectivement autre chose que du crime, d'avoir des émotions dans lesquelles les gens se reconnaissent, les lecteurs.
C'est intéressant ce que vous disiez sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Est-ce que c'est ça le point commun, le point de départ d'un roman ? Est-ce que vous savez déjà de quoi vous voulez parler et ensuite vous construisez l'intrigue à partir de ces thèmes et de ces idées ? Est-ce que vous partez d'un personnage ? C'est quoi le point de départ ?
Oui. Pour moi, il y a deux choses. Il faut la forme et le fond. La forme pour Norferville, c'était ce décor incroyable des villes minières isolées dans le Grand Nord québécois. Enfin, on a vraiment un décor de thriller, c'est-à-dire le froid, la ville inaccessible, le huis clos, en fait. Donc, moi, j'adore les huis clos, donc j'avais ça. Et pour compléter cette histoire, il faut un fond. Et ce fond, je l'ai eu en menant mes recherches et en découvrant le drame qu'ont vécu les jeunes femmes autochtones, de violence, de
disparition. Oui, parce que c'est pas un hasard si l'histoire se passe en 2016.
Bah, depuis plus de 40 ans, les femmes autochtones, donc les différentes communautés qui vivent dans le Grand Nord canadien, enfin au Canada de manière plus générale, les femmes subissent des violences, des disparitions, des meurtres.
Des viols.
Une jeune fille de 15 ans, jusqu'en 2016, avait 10 fois plus de chances de se faire violer qu'une non-autochtone. Et ça fait 40 ans qu'on en parle. On connaît le drame des femmes amérindiennes dans
et
les années 70.
Qu'est-ce qui a changé en 2016?
Bon, en 2016, on a dit assez, quoi. On s'est dit, il faut que ça s'arrête. Il y a eu les mouvements de femmes qui commençaient à s'exprimer. Il y a eu l'arrivée d'Internet, MeToo, qui est quand même arrivé, justement, jusque très loin. Avant, il n'y avait pas Internet dans ces villes. Internet est arrivé, donc les gens ont commencé à parler. Les femmes ont commencé à parler. Tout le monde en parlait, donc à un moment donné, le gouvernement a dit, il faut qu'on mène une enquête. Donc il y a eu un comité d'enquête qui a enquêté sur ces violences, et une commission d'enquête, et il y a eu des procès, il y a eu des gens qui ont été jugés, et tant mieux, et on en parle encore. Le drame n'est pas encore résolu, mais en tout cas, il a eu le mérite d'émerger de cette manière-là.
Et vous, quand vous avez entendu cette histoire, vous avez senti la possibilité d'une enquête et
oui,
d'une
mais complètement.
Histoire longue.
En fait. Mais moi, je dis toujours, c'est une somme de hasard qui mène à un roman. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas que j'allais tomber là-dessus, en fait. Donc, j'avais découvert ces villes minières. Je me dis, c'est déjà un bon décor, il peut se passer des trucs, il peut y avoir un meurtre. Mais pourquoi le meurtre? Et en fait, en cherchant le pourquoi du meurtre, ben, je creuse comme ça et je tombe sur...
Et en fait, tout est logique.
Oui, en fait, c'est du hasard provoqué. En fait, on butine un peu partout. Hein. Souvent, on dit, on regarde quand un auteur est en train de faire des recherches, il est ouvert à tout. Et on récupère tout ce qui pourrait intéresser notre histoire. Et c'est comme ça que ça se crée à la fin. C'est vraiment une somme d'éléments qu'on relie entre eux à travers une enquête criminelle.
Anouk Schotterberg, moi, j'ai l'impression que votre démarche est un peu différente. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, moi je fais énormément de recherches également, à partir du moment où une idée germe, dans Jeu de peau qui parle de tatouage Irezumi, un tatouage ancestral japonais. J'avais ce scénar en tête depuis très longtemps, mais je n'y connaissais rien. Donc j'ai passé énormément de mois, je suis allée également au Japon pour me renseigner. Il y a toujours une phase entre le moment où germe l'idée et le moment où on va en faire quelque chose. Et donc il y a toute une démarche qui effectivement, et là on apprend énormément de choses en tant qu'auteur, et on veut faire partager aussi ces connaissances-là à nos lecteurs, parce qu'on apprend plein de choses dans un polar.
Moi je pensais que naïvement, qu'un auteur de polar partait parfois d'un crime, enfin d'une idée de meurtre. Est-ce que, en fait, là, je me rends compte que vous partez surtout de recherche, de réflexion sur le fond?
Bah, en fait, comme disait Franck, c'est aussi une ambiance qui nous marque particulièrement, ou un fait, comme disait Franck, sur le Grand Nord canadien. C'est à un moment donné, voilà, on
parce que là, votre roman est très imagé, quand même, Anouk Schotterberg.
Bah, comme les trois précédents, c'est-à-dire que, avant de commencer à écrire, j'ai déjà mon film en tête.
Oui, c'est vrai que vous réfléchissez beaucoup en scénariste, en fait.
Oui, c'est-à-dire que non seulement j'ai ma colonne vertébrale, mais avant de commencer à écrire un chapitre, je me dis, voilà, qu'est-ce que j'aimerais voir à l'image? Donc, en fait, mes personnages, ils se mettent en place au fur et à mesure. Et ils prennent place dans mon histoire comme si j'avais caméra à l'épaule, en fait.
Vous aimeriez réaliser ?
Oui, alors c'est un peu prétentieux, mais bon, travailler comme scénariste, ouais, ça me plairait beaucoup. Hein.
Bon, bah, le message est passé. Franck Tillier, vous publiez au moins un livre par an. Vous avez donc l'idée du prochain. Bah, vous avez commencé.
Plus que l'idée, puisqu'il sort le...
Non, il y en a un qui sort en mai, mais le prochain encore.
Oui, bah, j'ai commencé, je suis toujours très, très décalé. Mais celui du 2 mai, encore une fois, il y a eu cette démarche de recherche, parce que je me suis immergé dans une unité pour malades difficiles. Donc le gros sujet, cette fois-ci, c'est la psychiatrie, mais la psychiatrie vraiment très lourde, et c'est un sujet extrêmement... intéressant, c'est ça sera le sujet de fond du roman,
c'est
la responsabilité.
Le
oui,
titre.
C'est ça. Oui. C'est donc vraiment un bon sujet.
C'est bien, vous apprenez plein de choses à chaque fois. C'est passionnant. Franck Tillier, Anouk Schotterberg et Makodou Atolodé. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour les conseils lecture de la semaine. Mais juste avant, on écoute Ben PLG. Paraît que les miracles n'existent pas.
Qu'est-ce que je fais sur la scène? Pendant que le temps s'arrête pas de courir comme le lapin du Racel, un peu traumatisé par cette vie. Par les silences et les plates pattes où on voyait trop l'assiette, papy m'a vu sur la chaîne, il m'a dit c'est un bug, la télé déconne, ça fout la flemme, y'a pas longtemps il est parti, sans prévenir personne, avec une cigarette qui brûlait comme un cierge. Je parle un peu trop fort et je veux plus qu'on la ferme jamais. Mamie s'est brisé le cœur en tombant dans les escaliers. L'orage le laisse parler, le temps nous blesse. On pourrait croire que la vie nous teste. Les coups durs c'est comme les vieux, je laisse passer. Beaucoup d'amour, pas beaucoup de degrés Celsius. Trajectoire floue comme les ballons quand la balançoire faisait le but. Faudrait que tu manges un petit truc, ma mère elle dira toujours ça. Pour toi j'aurais toujours faim et sans toi j'aurais toujours froid. Rien n'a changé, y'a des enfants dans les tôles. Je viens de là où tu t'en doutais pas, mais t'as un oncle dans les rôles. Histoire de promesses sous le préau, de poussière sous le tapis. Je suis bien élevé, mais je dirais des gros mots toute ma vie. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas. N'existe pas, j'ai déjà passé un entretien en Kipsta, j'ai eu le job, donc je crois en tout comme les fous. Je crois en moi, je crois en nous, je crois pas les mecs en costume ou que la branlette, ça rend sourd. Je rappe comme un salopard, on s'est lavé dans des bassines comme 25G dans le clip de Cabochard. J'ai peur qu'on me laisse tomber, j'aime pas quand elle me dit à l'occasion. Ma mère, elle veut pas de cadeau, elle veut juste que je sois pas en retard. Je me réveille, j'ai toujours le même poids sur les paupières. 10 minutes dans l'eau bouillante, je mets toujours le même pot sur les coquettes. Trop fier pour négocier comme quand papy payait trop cher. Trop fier pour pas se relever après le crochet, j'étais fauché comme les blés. La vie ça coupe comme l'épée. On est tombé, on est revenu avec une envie de tout baiser. Elle a vu ma gueule toute blessée et elle m'a trouvé beau. Ma gueule même quand t'es tout zéro. Y'en a pour quitter le grand héros, je suis fatigué et je sens le bédo. Nique sa mère, ça pue plus la défaite. J'écoute pas mon président, j'écoute les histoires de la caissière. Le juge et la greffière et leurs airs dont vous l'avez dit. Je vous souhaite des heures d'embouteillage dans une voiture qui coûte les acédiques. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas.
Bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie de Franck Tillier, d'Anouk Schotterberg et de Makodou Atolodé. Et on accueille tout de suite une autre libraire suisse. C'est l'heure des coups de cœur de la semaine.
Lilia Hassen, Etc.
Et j'accueille Annick Vermeau de la librairie Zalactoré à Martigny en Suisse. Donc, bonjour Annick.
Mais un chaleureux bonjour.
Alors je ne vous savais pas, amatrice de polar, Annick.
Si, si, quand même un petit peu. Et puis, j'avais envie de vous parler de nos deux grandes stars suisses du polar, Marc Woltenhauer et Nicolas Feuze. Les lecteurs le réclamaient régulièrement à grands cris. À quand un roman à quatre mains ? L'idée planait depuis des années, mais les agendas respectifs de ces deux messieurs ne collaient pas. Et enfin, à l'occasion d'une série de dédicaces communes, eh bien, ils se sont décidés. Et en deux semaines, ils nous ont monté un scénario et ils se sont séparés les chapitres. Ces chapitres-là ont fait de nombreux allers-retours pour arriver à un roman noir bien, bien trépidant. Donc, les héros de ces deux auteurs, le procureur Jameson et l'inspecteur Andrea, vont coopérer dans une enquête de mœurs qui va s'avérer être la pointe de l'iceberg d'un très vaste complot. Vous allez vous plonger dans le fonctionnement plus ou moins bien huilé de notre fameuse confédération helvétique et de ses particularités cantonales. Vous frottez à la noirceur de bon nombre d'individus. La réalité et la fiction se mélangent dans le roman, car Nicolas Feuze, peut-être vous l'ignorez, il est procureur dans le canton de Neuchâtel. Et il s'amuse régulièrement à transformer et à intégrer des affaires bien réelles dans la trame de ses romans. Comme par exemple une affaire de récusation, une procédure qui existe, je crois, qu'en Suisse.
C'est quoi la récusation, Annick ?
Alors, normalement, dans chaque canton, parce qu'on a la Suisse, elle est très séparée, on a un juge, des procureurs, etc. Et le procureur Jameson, il est de Neuchâtel. Et en aucun cas, il aurait pu venir dans le canton de Vaud où travaille son collègue inspecteur. Mais comme il semblerait que le ministère vaudois soit soupçonné de parti pris dans l'affaire de viol, il a été récusé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus intervenir. Et alors, il doit être remplacé par d'autres instances judiciaires d'un autre canton. Cette pirouette pourrait paraître un peu artificielle et romanesque, mais en fait, elle est inspirée de vrais faits réels qui ont défrayé la chronique du côté de Genève en fin 2023. C'est d'ailleurs assez terrifiant de se demander si les meurtres ou les actions criminelles n'ont pas été inspirées de faits réels dans certains de leurs romans. D'ailleurs, dans celui-ci, le rythme est soutenu, l'intrigue est addictive, les références aux précédents polars font plaisir aux lecteurs assidus, mais ils n'empêchent aucunement la compréhension d'un lecteur néophyte. L'écriture à quatre mains fonctionne parfaitement, sauf pour la fin. Non, mais ça va pas du tout. Comment Marc Woltenhauer et Nicolas Feuze peuvent-ils nous laisser dans un suspense aussi insoutenable ? Heureusement, il semblerait qu'il se murmure que vers 2027, on puisse avoir une suite à Ultimatum. Va falloir jusque-là que je ronge mon frein.
Le titre, c'est donc Ultimatum. Merci Annick Vermeau. Anouk Schotterberg, Franck Tillier, et je vous pose la question aussi à vous, Makoutou, pourquoi pas. Est-ce que vous pourriez écrire à quatre mains ? Franck,
non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On parle souvent avec certains auteurs copains, comme Bernard Minier, par exemple. On dit, ah, mais, les lecteurs nous disent, ah, mais quand est-ce que vous allez écrire un livre à quatre mains ? C'est compliqué parce que lui, il a son univers, j'ai le mien, on n'écrit pas forcément au même moment. Et souvent, les gens qui écrivent à quatre mains, ils ont un lien très fort. Giacometti et Ravenne sont amis depuis très longtemps. Il y a Jérôme Camus et Nathalie qui sont mari et femme. Donc, il y a un lien très fort. C'est, voilà, donc non, pour l'instant, c'est, on est chacun dans nos...
Et vous, Anouk Schotterberg ?
Moi, je suis comme Franck. Pour l'instant, c'est vous pas quelque chose qui me tente. Je préfère voilà, vraiment creuser encore plus dans mon univers. Je ne dis pas non, mais voilà, pour l'instant, pas tout de suite.
Makoutou, Atolodé, vous non plus ?
Non, enfin, je ne sais même pas comment je pourrais commencer à écrire. Enfin, à quatre mains avec une autre personne, ça me paraît assez...
C'est sûr qu'il faut être proche. Merci beaucoup. Merci encore, Annick Vermeau. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités. Anouk Schotterberg, on conseille votre roman In Extremis, une exploration dérangeante de la beauté et de la peur dans un univers glacé. C'est aux éditions Récamier et c'est très finement écrit. Je recommande aussi votre roman, Makoutou Atolodé, Étincelle rebelle, premier roman remarquable, publié dans la série noire de Gallimard, un polar social, vif, lucide et très éclairant sur les rouages du pouvoir au Sénégal. Je n'ose même pas conseiller votre livre, Franck Tillier, tant il cartonne déjà, comme tous vos romans. Norferville aux éditions Fleuve Noir, une réflexion sur la mémoire collective, le poids du silence et les victimes qu'on refuse de voir. Un mot de remerciement aussi à nos libraires du jour, Annick Vermeau, Alexandre Dimitrievitch et Benoît Autier. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Stéphane Beaufils à la technique, Estelle Gab, Virginie Rouzic et Manon Grandière. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.